On a tous été créés différents, y compris au niveau de la taille. C'est avec beaucoup de joie qu'avec Laurence et un de nos enfants, Ève-Marie, on est ici parmi vous ce matin. C'est vrai que c'est avec beaucoup de joie aussi qu'on participe à cette communion des églises de l'association baptiste dans Paris Centre. Très content de succéder à Joe, à la chaire ici. On est tellement reconnaissant aussi de voir que, comme j'en parlerai tout à l'heure, on est plusieurs églises de Paris, la Garenne-Colombes, à avoir ces derniers mois écouté la première épître de Pierre. Donc à croire que le Saint-Esprit a quelque chose à nous dire à tous en ce moment, ne serait-ce que pour nous rappeler que nous sommes étrangers, voyageurs, et que notre maison n'est pas ici. Mais c'est avec beaucoup de joie que, aussi, j'aimerais vous... Beaucoup de reconnaissance que j'aimerais vous... Vous rappelez que, je ne sais pas si vous le savez tous, mais on a pu faire nos cultes ici le samedi pendant tout un mois, un peu plus d'un mois, le samedi de 13h à 14h, parce qu'on ne pouvait pas se réunir dans le cinéma Les Cinq Comartins à proximité de la gare Saint-Lazare où on se retrouve d'habitude, parce que les cinémas étaient fermés. Donc un grand merci de la part de toute la communauté de l'église Saint-Lazare. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, parce qu'on veut écouter la parole maintenant, mais on est reconnaissant de pouvoir contribuer ensemble à l'avancée du royaume de Dieu dans cette ville qui en a tellement besoin. On est encore au tout début de notre aventure en tant qu'implantation. On va rentrer dans la cinquième année d'église à partir de la rentrée, et tout reste à faire, en particulier dans les 8e et 9e arrondissements, où encore peu de personnes ont fait des pas vers le Seigneur Jésus. Peut-être des pas vers le Seigneur Jésus, mais pas pour faire allégeance au Seigneur de gloire et pour recevoir son salut. Alors, si vous voulez plus de détails, je serais tellement content de vous en donner, mais peut-être après. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à la suite du texte que vous avez eu l'occasion de méditer avec Joe la semaine dernière. Il s'agit de la première épître de Pierre, au chapitre 4. Et cette fois, à partir des versets 12 à 17. 1 Pierre 4, de 12 à 17. Et moi, je vous lirai le texte dans la version Colombes, qui est la version sur laquelle je travaille et que je lis en général. D'abord, je vous invite à faire écho à ce chant et prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui parle et qui se révèle. Nous voulons te remercier parce que tu le fais de multiples manières. Nous voulons te remercier parce qu'il suffit de regarder autour de nous le monde créé, la nature, dans toute sa diversité pour nous souvenir que tu es là. Et nous te remercions parce que tu te révèles par ta sainte parole qui est fidèle comme tu es fidèle, fiable comme tu es fiable, solide comme tu es solide et qui est notre boussole pour nous apprendre à t'aimer et apprendre à dépendre de Jésus-Christ, ton Fils, celui par qui tu t'es révélé ultimement, celui par qui tu nous aimes d'un amour éternel, celui par qui s'accomplit ce texte d'Ésaïe 43 que nous venons de lire ensemble, et nous te prions, Seigneur, que tu fasses ton œuvre en nous. Dispose nos cœurs et que par ton Saint-Esprit, ta parole tombe dans de la bonne terre, rends-nous capables de l'entendre, de la comprendre, et alors que je m'apprête à proclamer cette parole, je te prie vraiment que tu m'aides à le faire de manière claire, fidèle, de manière à ce que nous puissions ensemble aussi voir comment elle portera du fruit par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Nous te demandons tout cela en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous lisons donc 1 Pierre 4, de 12 à 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se méfiant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Jusqu'ici notre lecture, et nous prions que le Seigneur éclaire nos cœurs par sa parole. J'aimerais pour commencer vous parler de Martin, de Sophie, de Dounia et de Alain. Martin, qui dans son lycée n'a pas tellement envie de dire qu'il est chrétien. Il a peur de s'en prendre plein la tête et il a peur de perdre des amis. Il y a aussi Sophie, qui est experte comptable depuis 17 ans dans son entreprise et qui se rend compte que sa hiérarchie est en train de, la mettre au placard parce qu'en raison de sa foi, elle refusait de trafiquer les comptes. Et elle se demande si Dieu est encore avec elle. Et puis il y a Dounia, 19 ans. Après avoir été battue, elle s'est faite séquestrer tout un week-end par ses frères. Ils l'ont surprise en train de dire à sa mère que Jésus est maintenant son sauveur et son Seigneur. Et enfin, il y a Alain. Alain, en voyant le mépris qu'il s'est attiré de la part de sa femme et la haine de sa belle-mère au moment de sa conversion l'an dernier, il commence à se dire qu'il aurait peut-être mieux fait de laisser Jésus en dehors de sa vie. Peut-être que vous avez chacun vos histoires. Mais voilà la question qui nous est posée autour de ce texte et peut-être de ces petites illustrations qu'il cherche à l'exprimer. Est-ce que souffrir parce qu'on est chrétien, c'est normal ou anormal? Je ne sais pas si j'ai... Voilà. La souffrance du chrétien, norme ou anomalie, c'est ça. Alors, la question peut-être gêner parce que la souffrance en général dans cette société moderne et triomphante, c'est un tabou. Je pense que quand la souffrance survient, on ne sait pas toujours comment la gérer, on ne sait pas toujours comment bien en parler, ni bien la comprendre. Et dans ce contexte général, l'incompréhension est d'autant plus grande quand on parle d'une souffrance qui semble assez facile à éviter. Par exemple, celle liée au fait d'être chrétien en France aujourd'hui. Il suffirait de cesser de trop parler de Jésus pour ne plus souffrir, par exemple. On peut en reparler tout à l'heure si vous voulez. Mais en fait, la situation des chrétiens à qui Pierre a écrit en premier lieu ici était assez proche de la nôtre. Ce n'est pas forcément des persécutions comme on voit dans les films, dans des cirques avec des lions. Pas forcément, c'était surtout visiblement à travers ce qu'on voit, de ce que Pierre leur dit, beaucoup de vexations en raison de leur appartenance à Jésus, des humiliations qui pouvaient aller peut-être plus loin, mais quand même, somme toute, assez proche de la nôtre. Et Pierre donne le ton dès le verset 12, je vous invite à le lire. « Bien-aimé, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Pierre annonce la couleur dès le départ et nous donne la possibilité de répondre dès maintenant à cette question. La souffrance du chrétien n'est pas une anomalie, ce n'est pas étrange, c'est quelque chose qui fait partie de notre appartenance à Jésus. On va le voir ensemble. Pierre nous invite à changer notre vision du monde, qui ne doit ni dépendre de ce qu'on peut voir ou percevoir ou ressentir, c'était peut-être la tentation des personnes dont je vous ai parlé au début, mais de Dieu seulement. Et voilà l'invitation centrale. Ne nous laissons pas déstabiliser par notre souffrance de chrétien. Pourquoi? Mais parce que, et c'est ce texte, je pense, qui nous le montre, cette souffrance pointe vers notre destinée glorieuse. Cette souffrance prouve que nous appartenons à Dieu et cette souffrance révèle que le jugement de Dieu a déjà commencé. Alors, on regarde d'abord le début, le verset 13 qui fait suite à cela. Regardons ensemble cela. Premier doute qu'on pourrait avoir, est-ce que notre souffrance n'est pas la preuve que le christianisme est un échec? Pourquoi ne sommes-nous pas triomphaux? Je ne sais pas si on dit pluriel, on en parlera tout à l'heure. Non, 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 la souffrance du chrétien n'est pas la preuve que le christianisme est un échec. Et ce verset 13, dans la suite du verset 12, le montre. Elle pointe vers notre destinée glorieuse et ça doit être non pas une source de doute, mais de joie. Lisons ces deux versets l'un à la suite de l'autre. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, dit Pierre, de la souffrance qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Réjouissez-vous afin de vous réjouir avec allégresse. » Trois allusions à la joie en rapport avec la souffrance du chrétien, on ne peut pas le louper ça. Participer aux souffrances de Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je pense que Pierre reprend tout simplement un motif très présent dans la Bible, celui de la solidarité entre Dieu, entre Christ et ceux qui lui appartiennent, ses disciples. Comme Christ a d'abord souffert, puis est ensuite ressuscité pour entrer dans la gloire de Dieu pour toujours, de la même manière, chaque disciple de Christ souffre d'abord, mais avec l'assurance qu'il aura ensuite part à la révélation de la gloire de Christ, nous dit Pierre ici, c'est-à-dire quand il va revenir dans la gloire pour juger les impies et sauver ceux qui lui appartiennent. Alors, subir la même opposition que Christ maintenant, parce qu'on s'attache à lui, coûte que coûte, c'est la garantie qu'on partagera avec lui l'approbation de Dieu à la fin, comme lui a été approuvé de Dieu pour l'éternité après sa mort sur la croix. Alors, quels sont les effets sur nous ? J'en ai parlé avant, on le relit pour être sûr de ne pas se tromper. Regardez l'insistance de Pierre. Dans votre fournaise, au lieu de trouver cela étonnant, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Comme exemple, je n'ai pas pu ne pas penser à Pierre et Jean dans le livre des Actes qui, au moment de témoigner de Jésus, au moment d'être arrêtés parce qu'ils parlaient de Jésus, au moment d'avoir été sommés de ne plus parler de Jésus et au moment d'avoir été fouettés, pour qu'ils arrêtent de parler de Jésus, s'en retournent, heureux d'avoir pu souffrir pour Christ. Voilà à quoi ça ressemble, la souffrance pour Christ. Ça me fait aussi penser à une anecdote que j'ai entendue il y a quelques années en Corée du Nord, où la délation, vous le savez, est souvent encouragée, on doit dénoncer quels seraient les chrétiens supposés ou les chrétiens authentiques dans votre rue, dans votre voisinage, et une famille de chrétiens avait été dénoncée par leurs voisins, et ils ont tous été déportés dans des camps de rééducation. Et puis les autorités, étonnées du discernement des voisins, avaient demandé « Mais comment vous avez su qu'ils étaient chrétiens ?» Et les voisins dénonciateurs ont dit « Mais c'est parce qu'ils souriaient tout le temps, ils avaient l'air tout le temps heureux. » Et ça tranchait tellement avec le reste de l'ambiance du quartier qu'on s'est dit, il y a un truc, ils doivent être chrétiens. Et c'était juste. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif, la souffrance d'un côté et la joie de l'autre. Mais ça en dit long sur la puissance de la joie et de la gloire qui viennent, qui nous sont réservées lors de la révélation de la gloire du Seigneur Jésus. Cette joie qui vient a le pouvoir de nous éclairer déjà maintenant au cœur même des outrages qu'on peut subir. Qu'ils soient réels, peut-être que c'est votre cas, ou qu'ils soient potentiels, ça pourra être votre cas. Premier doute donc, et avec première remarque, la souffrance du chrétien n'est pas une anomalie, parce qu'elle pointe vers notre destinée glorieuse. Ça nous conduit au deuxième point, à la suite de ce texte, avec un deuxième doute. Est-ce que notre souffrance ne montre pas que Dieu est absent ou qu'il est fâché contre nous ? Non, dit Pierre. Dans la suite de ce texte, notre souffrance prouve au contraire que nous appartenons à Dieu et c'est un sujet de gloire, de fierté. L'affirmation de Pierre est sans ambiguïté dans cette fournaise. Verset 14, regardez avec moi le verset 14. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » C'est un signe d'appartenance dans un monde qui le rejette, que nous appartenons à Dieu lorsque nous souffrons pour la cause de Dieu. On ne peut pas ne pas penser là, par exemple, aux promesses du Seigneur Jésus dans le discours des adieux, dans Jean 16, lorsqu'il annonce qu'il leur sera enlevé, ils seront dans la tristesse, il leur reviendra, ils seront dans la joie. Et dans la promesse de l'Esprit Consolateur, il leur promet la chose suivante, « Plus personne ne pourra vous ôter votre joie. » Avec le sceau d'appartenance du Saint-Esprit qui demeure dans le chrétien, quelles que soient les circonstances, ce n'est pas un signe de l'absence de Dieu, c'est le signe de la présence de Dieu. Mais à l'évidence, il y a un contraste, une tension entre le visible et l'invisible, là, je ne sais pas si vous voyez, visiblement des hommes et des femmes qui souffrent à cause de leur foi et qui pourraient douter parce qu'en se disant « Dieu n'est pas là » ou alors « Dieu est fâché contre moi ». Et d'un autre côté, la réalité intérieure, invisible, où on a la preuve, et Pierre nous la rappelle ici, du sceau de l'Esprit, de l'appartenance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Il y a un contraste entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ça m'a fait penser à un résistant qui, de la première heure au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui serait attrapé par la Gestapo qui vient d'arriver à Paris après la déferlante des panzers partout en France et qui prend cet homme et qui le fusille devant le reste des Français. Et le reste des Français, qui est de toute façon traumatisé par l'arrivée massive de l'Allemagne, dit « Mais de toute façon, c'était une cause perdue !» Pourquoi cet homme, en juillet 1940, se met à s'attacher à une cause aussi perdue? Visiblement, il a fait le mauvais choix. Visiblement. Seulement, il y a deux choses qu'ils ignorent. La première, c'est que cet homme-là s'était rallié à la cause de la France libre en écoutant le discours du 18 juin, dont nous nous rappellerons bientôt l'anniversaire, où le général de Gaulle a dit « La France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre ». Et puis, il était au courant des premières tractation qui se faisait entre les deux parties de l'Atlantique qui allait donner un pouvoir bien plus grand que celui de la vague déferlante de l'armée. Alors, de prime abord, et visiblement un homme qui se fait fusiller tout seul alors que visiblement c'est l'Allemagne nazie qui gagne, peut-être, mais en réalité, un homme qui appartenait à la victoire et la vraie victoire. Un petit exemple qui nous permet de voir à quoi ça ressemble lorsque visiblement nous sommes du côté des perdants, mais qu'en réalité, dans notre souffrance, nous pouvons nous souvenir que nous appartenons au parti du vainqueur, du ressuscité. Gloire à l'agneau immolé, vous le voyez tous les dimanches. J'aime ce verset qui nous rappelle que l'agneau est triomphant. Il est assis sur le trône pour toujours. Le contraste entre visible et invisible. Le fait d'être visiblement outragé pour le nom de Christ, mais de quand même continuer à s'attacher à lui, à le suivre, à parler de lui, c'est le signe de cette réalité invisible. Nous appartenons à lui. Je le relis. Vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Le contraire du Dieu fâché. Et c'est pour cela, je pense, que Pierre nous dit dans la suite que la raison pour laquelle nous souffrons ne doit pas brouiller les pistes. Regardez le verset 15. « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. » Notre raison pour souffrir ne doit pas brouiller les pistes. En tant que chrétien, fidèle à Christ, quelles que soient les circonstances, mais certainement pas pour des mauvaises raisons. On peut penser par exemple à l'amalgame honteux qui est fait ces derniers temps, même par des pouvoirs politiques, des membres du gouvernement concernant les méchants évangéliques qui sont mis plus ou moins dans le même sac que les islamistes terroristes. Voilà des amalgames qui sont honteux et qui nous font souffrir d'une mauvaise réputation alors que c'est injuste. Mais si on entend parler d'un chrétien évangélique qui est jugé et enfermé pour malversation financière, c'est autre chose, on le voit bien. C'est pour ça que Paul dit ici, Pierre dit ici, dans ce verset 15, qu'il y a un test. Faites le test du verset 15. Rejetez résolument le mal sans blâmer les autres, en résumé. Rejetez résolument le mal, on le voit dans la liste qu'il donne, que personne ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, parce que votre souffrance, si vous êtes jugé, serait juste, mais que ce soit simplement pour le fait que, en produisant le bien, et Pierre, vous l'avez vu, a insisté dessus tout le long de la lettre, c'est en faisant le bien que vous témoignez le mieux, que vous appartenez à Dieu. Et puis, c'est pas tout. Regardez, il dit quelque chose, il ajoute quelque chose d'assez d'intéressant. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Alors, je me demande si ça, il s'agit pas ici du chrétien sûr de lui qui, contre vents et marées, joue le schtroumpf à lunettes. Vous connaissez le schtroumpf à lunettes ? Qui dit sans arrêt aux autres, le grand schtroumpf a dit, non, c'est pas ça. Et au lieu d'être en train lui-même de produire le bien et de promouvoir le bien, il est en train de juger les autres et de dénoncer les autres, que personne de vous ne soit pris comme étant le donneur de leçons, jugeant des affaires d'autrui. Attention à cela. La vraie gloire du chrétien, sa vraie fierté, nous la voyons de part et d'autre de ce test du verset 15. Relisons-le. « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et si, au lieu de souffrir comme faisant le mal, vous souffrez comme chrétien, verset 16, n'en rougissez pas, mais glorifiez plutôt Dieu à cause de ce nom. » Le nom donné, c'est le signe de l'appartenance à Dieu. Et du coup, lorsqu'il nous arrive de souffrir injustement, parce que, pour une raison ou pour une autre, des gens autour de nous ont appris que nous appartenons à Dieu, que notre foi est placée en Jésus, et qu'il y a des conséquences sur notre vie quotidienne, eh bien, nous sommes, comme dit Pierre, nous pouvons être heureux de souffrir injustement, parce que nous sommes attachés à celui qui est le maître, le roi de justice, qui viendra, et c'est ce qu'on va voir maintenant, régler les choses définitivement. Ça nous conduit à un troisième doute. Est-ce que notre souffrance ne montre pas que les hommes ont raison de rejeter Dieu ? Et il y a plusieurs psaumes, notamment, qui se plaignent à Dieu en disant « Comment ça se fait, Seigneur éternel ?» Que le méchant réussisse et que le juste galère, que le juste vive l'injustice. Est-ce que notre souffrance ne montre pas que les hommes ont raison de rejeter Dieu ? Non, au contraire, nous dit Pierre, parce que notre souffrance révèle que le jugement de Dieu a déjà commencé. Et c'est d'un enjeu majeur. Alors, jusqu'ici, dans ce texte, Pierre nous a montré qu'il y a un lien entre nos souffrances et notre destination, verset 13. Qu'il y a un lien entre nos souffrances et notre appartenance. Nous appartenons au Christ souffrant, verset 14 à 16. Et pourquoi ces précisions ? Réponse, parce que à cause des versets 18. Et je pense que le quart du verset 17, parce que, nous conduit à cela. Parce que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, ne soyez pas surpris de la fournaise que vous traversez. Ne flanchez pas sur la raison de la souffrance qui est la vôtre. Parce que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement ? Ça ne veut pas dire que Dieu aurait de la difficulté à sauver le juste. Ça veut dire qu'à travers l'épreuve, la lutte contre le péché, son œuvre dans l'Église et dans le chrétien, il y a quelque chose qui se passe, c'est ce qu'on va voir après, un tri qui s'opère. Si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Résumons. La semaine dernière, notamment, vous avez vu avec Joe le verset 5 de ce même chapitre où il vous a montré une montre. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il vous l'avait montré. La montre qui rappelle, qui rappelle le compte à rebours. Depuis la mort et la résurrection, l'ascension de Jésus, nous sommes dans la fin des temps. Le compte à rebours du monde a commencé. Nous sommes dans la dernière page de l'histoire du monde. Et Dieu se prépare, comme le dit notre credo, à juger les vivants et les morts. Mais, dès maintenant, il opère un tri. Et si dans l'avenir, le grand tri va se manifester par le jugement de ceux qui auront rejeté le Seigneur de gloire et maltraité ceux qui appartiennent au Seigneur de gloire, pour l'instant, le tri purificateur concerne en priorité son propre peuple. Le Seigneur est en train de purifier son peuple. D'abord, je pense qu'en accord avec ce que Pierre vient de dire, il est question du tri en chacun de nous. La fameuse épreuve de la foi du chapitre 1 au verset 7. Je le relis, c'est un texte qui est tellement important pour nous, versets 6 et 7 du chapitre 1. « Vous tressaillez d'allégresse de cet avenir glorieux, de ce salut glorieux, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Le Seigneur purifie son peuple en travaillant dans le cœur de chacun de nous. Il opère un tri entre ce qui doit grandir en nous et ce qui doit disparaître, être arraché de nos vies. Et si l'épreuve contribue à cela, c'est une bonne chose. Cette épreuve dans laquelle le Seigneur nous dit « Tu perds cette chose, tu perds cette chose, tu perds cette chose, mais qu'est-ce qui te reste ? Est-ce qui te reste l'essentiel ? Est-ce que tu as compris que quand bien même tout te serait enlevé, il te reste l'essentiel si tu bâtis en Christ ?» Le Seigneur opère un tri purificateur en chacun de nous parce qu'il nous prépare pour la grande rencontre. Il nous rend beaux pour le jour de la rencontre. Et le Seigneur opère un tri dans sa maison, pas juste en chacun de nous, dans sa maison, dans la maison de Dieu, nous dit Pierre. Je pense qu'il est en train là de révéler par les épreuves multiples qu'on peut traverser, les chrétiens authentiques qui restent attachés à Jésus quel qu'en soit le prix, aux chrétiens d'apparence, qui renoncent à Jésus dans le but de ne pas souffrir. Imaginons dans un contexte où l'évangile de la prospérité qui promet que quand on est chrétien, on va être riche et qu'on va avoir une Rolls-Royce et la prospérité matérielle et financière, imaginez ce que donne une épreuve, une fournaise dans ce cadre-là. Tous ceux qui s'attachaient à Dieu pour des raisons pécuniaires et intéressées s'en vont. Imaginons ce que ça donne lorsque ça chauffe et que c'est l'épreuve dans un contexte où on est face à un évangile de la popularité et du chrétien cool, d'une église où on chercherait à adapter le discours de l'évangile de manière à être plus respectable et d'avoir une meilleure renommée. Imaginez ce que ça donne lorsque l'épreuve passe par cette église. Seuls restent, non pas ceux qui cherchaient à être reçus et acceptés par ce monde, mais seuls restent ceux qui étaient authentiquement attachés à Dieu, pas pour la crainte des hommes, mais pour la crainte de Christ. Et enfin, imaginons ce que c'est une épreuve que traverse une église qui est fière au niveau sociologique. Et ça, je pense que ça nous traverse tous. Peut-être les deux autres exemples, on pourrait se dire, c'est pas trop pour nous. Mais on peut très bien, nous, traverser des moments de fierté sociologique où on est plus attaché à la tradition historique évangélique de notre courant d'église ou de notre église locale plutôt qu'à l'évangile lui-même. Donc, il y a un changement de fierté, vous voyez. On est moins fier de Jésus et de l'évangile que de notre habitude et de notre appartenance. Imaginez ce que c'est quand l'épreuve survient, on se met à douter de beaucoup de choses, on se met à peut-être douter de notre appartenance, notre fierté en sociologique. Mais seuls ceux qui demeurent sont ceux qui, au lieu de s'attacher à ce qui passe, nos dénominations, nos églises, nos traditions, nos habitudes, tout ça passe. Seuls ceux qui restent sont ceux qui, à travers l'épreuve, restent attachés non pas à la tradition, mais à Jésus, au Seigneur glorieux dont Pierre nous parle. Et enfin, le Seigneur opère un tri en chacun. Il opère un tri dans la maison de Dieu et puis il opère un tri dans le monde. Il révèle le peuple sauvé par Dieu au milieu du monde ennemi de Dieu. Ceux qui préfèrent souffrir avec Jésus plutôt que d'être tranquille, mais loin de Dieu. Alors oui, on l'a dit avant, et Pierre le répète, nous sommes, en tant que chrétiens de l'histoire, non pas des gens installés chez nous à la maison, mais comme le peuple d'Israël en exode, comme le peuple d'Israël en exil, étrangers et voyageurs. Et je pense que c'est utile à ce stade-là de notre méditation, avant quelques mots de conclusion, que cette expression « étrangers et voyageurs » ici ont moins à voir avec un requérant d'asile qui serait maltraité dans son pays mais protégé en France que un ressortissant d'un pays ennemi dans un pays en temps de guerre. C'est plutôt ce type d'étrangers et voyageurs que nous sommes. Nous sommes facilement exposés à la haine et au mépris si nous restons attachés ouvertement à Jésus. Mais le jeu en vaut la chandelle. En maltraitant, en rejetant, en accusant, en jugeant les chrétiens d'une manière injuste, ce monde exprime en fait sa haine contre le Dieu vivant et vrai et s'expose à son jugement inévitable. L'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. Ce n'est pas juste mon petit confort. Ce n'est pas juste notre petit confort et nos habitudes. L'enjeu est énorme. Et peut-être que c'est l'occasion pour moi de dire un mot à si l'un d'entre nous, ici ou en ligne, se présenterait pas comme chrétien, comme appartenant à Jésus, et qu'il entendrait cette méditation de Pierre. En voyant des personnes chrétiennes qui seraient devant vos yeux humiliées pour leur foi, mais qui persévèrent dans leur souffrance et qui restent attachées à Jésus, voyez-le comme un signe qu'ils appartiennent au Dieu vivant, invisible, mais victorieux qui va juger le monde. Entendez l'avertissement. Le compte à rebours de ce monde a commencé et la persistance de l'Église et des chrétiens qui souffrent en restant attachés à Jésus est l'avant-goût de ce jugement. Entendez l'avertissement et entendez l'invitation. Il est encore temps dans ce moment de passer, comme dit Pierre, des ténèbres à la lumière, loin de Dieu à étant faisant partie de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. C'est le moment pour nous de conclure. Ne nous laissons pas déstabiliser par notre souffrance de chrétien. Dans un monde qui rejette Christ, chaque disciple de Christ est appelé à souffrir, et ce n'est pas une anomalie, c'est normal. Oh, Étienne, t'exagères, t'es un peu parano, non ? Tu cherches la casse. Il suffit de penser à ce que Jésus lui-même a traversé, notre Seigneur. Lorsque, dans l'évangile de Jean, par exemple, il dit « Je vous dis toutes ces choses et vous cherchez à me faire mourir » et tout le monde qui lui dit « Tu as un démon qui cherche à te faire mourir, personne. » Mais plus le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, est clair sur sa personne, sur le jugement de Dieu, sur le fait que lui seul peut sauver de ce jugement, plus on le déteste jusqu'à la mort. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Plus on est clairement attaché à Jésus, plus on dit clairement qui est Jésus et que Dieu est le Créateur, que cette terre est à lui, qu'il va juger le monde et que, bonne nouvelle, Jésus est le seul par qui nous pouvons être sauvés et pardonnés avant le jugement. Le plus nous disons cela, le plus on nous méprise. Le plus on nous met à mort, au moins socialement. Mais le jeu en vaut la chandelle. Sachant cela, l'attitude à adopter n'est ni l'arrogance, ni le triomphalisme, ni le défaitisme, ni la fuite ou le mutisme, ni l'agressivité et encore moins le jugement, mais le vrai courage, celui que nous trouvons en Jésus seul. Et c'est la conclusion de Pierre, je pense au verset 19. « Ainsi, maintenant que je vous ai dit toutes ces choses, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Entêtés au bien, entêtés en étant attachés à Jésus, coûte que coûte et quoi que cela leur en coûte. Le vrai courage, c'est de s'en remettre au Créateur en faisant le bien. Dans son lycée, Martin a parlé. Mise au placard dans son travail, Sophie persévère quand même dans le bien. Confiante dans son cher Seigneur, Dounia continue de grandir dans sa foi et de prier pour ceux qui la persécutent. Toujours au banc de sa famille, Alain préfère rester attaché à Jésus, même si ça lui coûte, et il connaît une joie qu'il n'a jamais connue. Je vous invite à un moment de silence, de prière silencieuse, pourquoi pas en ayant le verset 19 sous vos yeux, et puis je conclurai par la prière. Nous nous rappelons la parole du Seigneur Jésus au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que cette parole d'anticipation du Seigneur Jésus avant sa mort est maintenant notre réalité pour toujours. Il a vaincu, il est le roi victorieux. Il est celui à qui tu as remis toute autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous sommes tellement reconnaissants de lui appartenir, de t'appartenir à travers lui, d'être au bénéfice de cette alliance dans son sang pour toujours. Et Seigneur, si notre vie doit être marquée par la souffrance normale du disciple, si notre propre sang doit couler parce que nous appartenons au Seigneur Jésus, nous te demandons que tu nous donnes la force de le faire et nous te remercions parce que ce texte de Pierre nous rappelle que ce n'est pas en vain, nous rappelle que c'est normal et nous rappelle que dans cette même souffrance, tu agis en nous. Et c'est ce que nous te demandons de faire. Nous voulons avoir, Père, une pensée particulière sur la base de ce texte pour tous ceux et celles qui vivent un moment particulièrement intense de souffrance. Peut-être parce qu'ils ont parlé de Jésus plus ouvertement et parce que c'est pour la cause de Jésus qu'ils souffrent ou qu'ils sont calomniés. Nous te demandons, Père, que tu les renouvelles et que cette joie débordante dont parle Pierre ici soit la leur. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous te demandons cela et pour ta gloire. Amen.